ななにないないないななにないないなななにないないないななにないないなななにないないないななにないないなななにないないないななにないないな。
12 mai 2021. Levé à 5h30, grâce au chant des oiseaux et à la force de vie qui coule dans mes veines à nouveau. Tout est pure beauté. La brume matinale, le chant cristallin des oiseaux, la présence de Blue, la jument, les chèvres, la rosée sur les bourgeons roses vives du pommier, les hirondelles qui me saluent au passage à la toilette, les trois archers qui font leur cata pieds nus dans la rosée, le chant des femmes de Kiruna dans le gîte. Notre petit groupe qui se lit dans le champ pour le rituel du matin. Coquinette, la chèvre, qui boit goulûment son biberon. Mes sœurs, qui s'attellent à être tendres avec les chèvres pour avoir un peu de lait. Blue, qui m'offre son front contre le sien. Le chat, qui me lèche, puis me regarde dans les yeux avec amour. J'ai des larmes de grâce. Rien. Il ne me manque rien. Mon cœur est gonflé de gratitude. Quelque chose est soigné en profondeur. Il n'y a pas d'autre mot que merci.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast Dans la toile du vivant. Je suis Mayana Wolf et je co-anime ce podcast avec Aline Wauters. Aline est facilitatrice du Travail qui relie, ou TQR. Elle propose des sessions de TQR en immersion dans la nature sur le temps long. L'objet de ce podcast est d'explorer et de cultiver notre insertion dans la toile de la vie. Ou comme le dira plus loin Aline, comprendre avec ses tripes et non pas seulement avec sa tête l'interdépendance du monde. Les premiers épisodes sont consacrés à une expérience unique à ma connaissance. En mars 2021, un groupe de femmes a décidé de consacrer un an à l'exploration du dialogue avec le vivant, en allant vivre au plus près du vivant, proche de la forêt. Je suis aujourd'hui avec Aline Wauters, qui est à l'initiative de cette expérience. Elle va nous raconter à la fois la genèse du projet, son déroulement et les nombreux fruits qui ont pu être recueillis lors de cette expérience. Bonjour Aline.
Oui, bonjour Mayana.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi pour que nous puissions faire ta connaissance ?
Merci Mayana. Il y a toujours mille manières de se présenter. Quelles sont les pierres de guet, j'ai envie de dire, qui m'ont amené à ce dialogue avec le vivant ? Bon, ça me poursuit depuis longtemps, mais ça s'est construit comme ça avec le temps. Donc, en fait, quel parcours ? Donc, moi, je nais en Afrique en 1965. J'y resterai jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, je viendrai sur l'Europe, sur les États-Unis, puis je passerai aussi énormément de temps en Asie, en particulier aux Philippines et en Inde. Et je pense que il y a comme ça toutes des ouvertures sur les possibles qui se sont créées en fait, en passant d'un continent à l'autre, d'une culture à l'autre, etc., qui ont tout le temps ouvert des possibles. Et puis à un moment, je suis la maman de deux filles. Ben, je me suis retrouvée enceinte d'une première fille, j'avais 28 ans. Et à l'époque, je travaillais sur des projets en Inde et il m'a semblé évident que j'allais accoucher là-bas, que j'allais pas accoucher en Belgique parce que voilà. Et donc, j'ai accouché dans un ashram de femmes en Inde et quelque part, ça a commencé à construire un intérêt important pour moi sur qu'est-ce qui se passe quand des femmes vivent ensemble. Et puis à l'époque, j'étais aussi avec cette question de quelle spiritualité pour les femmes, puisque toutes les religions sont menées par des hiérarchies d'hommes. Et donc c'était quelque chose qui me questionnait, donc ce rapport à la spiritualité et donc à l'invisible, au rapport avec plus grand que nous. Donc quelque chose s'est ouvert là, à travers les femmes, dans un chemin de spiritualité. Mais à l'époque, je passais beaucoup de temps aux Philippines, et les Philippins, ils ont un très grand rapport avec l'invisible. Et ils en parlent volontiers, ça fait partie de leur quotidien, etc. Et c'est venu me chercher. Je me rappelle d'un homme qui parlait avec une des femmes qui était là, puis qui disait, ben, quand il fait pipi dans la nature, eh ben, il demande pardon parce qu'il ne sait pas très bien sur qui il fait pipi. Des choses simples, tu vois, mais je me disais, oh mon Dieu, mais je ne me pose jamais cette question. Enfin, donc ça m'a ouvert comme ça. Le chemin, il s'ouvre peu à peu. Hein, les possibles s'ouvrent comme ça, peu à peu. Et puis en 2006, alors que je faisais une grande pause, après avoir travaillé pendant 10 ans pour une ONG d'éducation au développement, j'ai fait une grande pause de 8 ans. Et pendant cette pause-là, j'ai découvert le travail qui relie de Joanna Macy. Tout de suite, j'ai senti mon cœur bondir, c'était ça que je voulais faire, etc. Voilà, j'ai pu me former, je suis allée en forêt de Brocéliande pour recevoir une première expérience de 8 jours. J'ai tout de suite adoré, j'ai fait venir Claire Carré qui donnait cette expérience en Belgique pour qu'en Belgique on la reçoive aussi. Et à partir de ce moment-là, ben, tous ceux qui ont fait cette expérience de 8 jours sont devenus des facilitateurs du travail qui relie. Et moi, ça a commencé à habiter ma vie de manière très, très forte. Ça, j'ai commencé à animer des petits moments, un jour, deux jours, trois jours, tout en continuant. J'ai repris un travail. Pendant 10 ans, j'ai travaillé pour la Maison du Développement Durable dans ma ville. Et puis, à un moment, j'ai vraiment le sensible, ça manquait, quoi. Dans le milieu académique, parce qu'on était basé sur l'université. Voilà, moi, ça me manquait énormément, qu'on ne pouvait pas déployer cette partie plus subjective, plus sensible, et lui donner de la place. Vraiment, ça me manquait fort. Et donc, j'ai commencé à animer en dehors de mon travail. Et puis, à un moment, j'ai basculé, j'ai dit, ça suffit, moi, maintenant, je prends un mois entier et je veux offrir à un groupe de femmes cette possibilité de 28 jours de travail qui relie en pleine nature. Et donc, voilà, il y a 14 femmes qui sont inscrites et qui ont décidé de prendre un mois de leur vie pour faire ça. Et au bout de cette année-là, on a regardé enfin, ce que chacun avait envie de faire sur base de cette expérience. Et puis moi, je me disais, ben, c'est bon, je viens d'accoucher, il ne me faut pas un deuxième bébé. Et puis quand même, un deuxième bébé a jailli. Et je me souviens que c'est le titre de ce livre amérindien, c'est « Un an à pieds nus sur la terre sacrée ». Hein, et l'idée a germé à ce moment-là, et j'ai dit, ben si, en fait, c'est pas fini pour moi. C'est le tout début. Et donc, l'année d'après, j'ai offert 4 mois, l'année d'après, j'ai offert 6 mois, l'année d'après, j'ai réoffert 6 mois, et puis après, il y avait quelque chose de l'ordre de l'évidence que ça devait s'inscrire entièrement dans ma vie. Et donc, j'ai eu très envie de passer à 1 an, et de poursuivre ce premier hint. Et donc, je me suis dit, mais oui, mais pourquoi pas 1 an? Et puis, si je veux aller à fond sur comprendre l'objectif de Joanna Macy, donc, qui est la créatrice à la source du travail qui relie, et donc, l'objectif final du processus qu'elle propose, c'est de comprendre avec ses tripes, pas seulement avec sa tête, l'interdépendance du monde. Et je me suis dit, ben, pour comprendre l'interdépendance du monde, il faut aussi que je puisse me mettre en dialogue avec le reste du monde. Et donc, comme on vit quand même une époque extraordinaire où ça devient évident, la communication animale, la communication végétale, la communication avec l'invisible, enfin, c'est de plus en plus présent, alors qu'il y a 10-15 ans, on était un peu pris pour des bizarres, perchés. Hein, des perchés quand on était là-dedans. Maintenant, ça pullule, on trouve des livres là-dessus, en veux-tu, en voilà, etc. Et donc, je me suis dit, ben... Et si on tentait ça, si on tentait le tout pour le tout et qu'on partait du principe que c'est possible et qu'on s'offre 1 an pour ça? Est-ce qu'on va pouvoir dialoguer avec la forêt? Est-ce qu'on va pouvoir dialoguer avec le ruisseau, avec les chèvres, avec les insectes, avec les abeilles? Est-ce qu'on va pouvoir faire ça si on se l'offre et si on se dépose pour le faire? Donc ça, c'était... voilà, c'est comme ça que ça s'est créé. Puis je me suis dit, ben moi, j'ai pas envie de faire ça seule. Et en fait, ça faisait quelques temps qu'à la fin de chaque traversée avec des femmes, on parlait de trouver un lieu pour des femmes, un ancien béguinage. Enfin, il y avait régulièrement cette conversation qui remontait. Et à la toute dernière que j'avais faite au mois d'août à Furfaux, on en avait de nouveau parlé avec les femmes qui étaient là. Et du coup, j'en ai parlé à ces femmes-là. J'en ai parlé à Véronique. Véronique en a parlé à Périne. Périne en a parlé à Cécile. Bref, on s'est finalement... on est devenu un petit quatuor qu'on a appelé les trollettes, le féminin des trolls. Et puis, voilà, on s'est mis à rêver ensemble, à chercher un lieu ensemble, à architecturer dans l'imaginaire qu'est-ce qu'on voulait vraiment proposer à d'autres femmes. Et on a commencé à construire ensemble. Et c'est ensemble qu'on a fini par retourner dans un des lieux de mes traversées à Momigny. Et qu'on a appelé, les personnes, et puis elles ont quasi tout de suite dit oui pour accueillir cette traversée d'un an. Et à ce moment-là, eh bien, il y avait tellement de femmes déjà aux traversées qu'il m'a suffi de reprendre les listes de, je ne sais pas, il devait y avoir plus de 200 femmes en tout cas qui s'étaient inscrites. Donc j'ai envoyé un mail à toutes ces femmes en disant, bah, tiens, voilà cette nouvelle proposition, est-ce que vous ne seriez pas tentées de vous réinscrire, mais cette fois-ci pour une traversée d'un an.
Et voilà, du coup, il y a un groupe qui s'est inscrit, qui a fait le pari, et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Et donc, en fait, il y a eu beaucoup de femmes qui ont répondu à l'annonce. Donc, je les ai toutes réunies. Et évidemment, il y en avait beaucoup parmi elles qui n'étaient pas dans la possibilité ou pas prêtes à être en résidentiel 24 heures sur 24 pendant un an. Du coup, est née la possibilité de créer des sous-groupes périphériques où les femmes et les hommes aussi, il y a eu deux groupes mixtes et il y a eu un groupe d'hommes. Qui puissent vivre ce dialogue avec le vivant à leur rythme tout en vivant chez eux. Donc ces groupes se rencontraient soit toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, c'était eux qui décidaient, ils étaient entièrement autonomes. Et donc il y a eu 15 groupes qui se sont créés en périphérie, donc au départ on n'était pas 12 finalement, on était 154, c'était vraiment, voilà, on a appelé ça le mycélium. Et pour tisser du lien avec ce mycélium, nous on était le cercle cœur, eh bien on a proposé que 4 jours par mois, une personne de chacun de ces groupes puisse nous rejoindre pendant 4 jours et qu'on puisse revivre une spirale du travail qui relie ensemble et en même temps avoir des temps de partage sur qu'est-ce qu'ils étaient en train de découvrir et qu'est-ce que nous on était en train de découvrir. Comme ça, à chaque fois, il y avait une personne qui retournait dans les cercles et qui venait nourrir ce qui s'y passait. Et puis nous, on était nourris par les cercles périphériques, quoi. C'était magnifique. Et comme ça faisait en plus quelques années que je travaillais avec un cercle d'hommes, toujours le même, qui venait rejoindre les cercles de femmes que j'animais, et qu'ils avaient été au courant du projet et qu'ils étaient d'accord de continuer de rejoindre ce cercle de femmes une fois par mois, on accueillait aussi un week-end par mois un groupe d'hommes qui venait essayer de comprendre qu'est-ce que nous on vivait dans ce dialogue avec le vivant et faire un partage avec eux. Du coup, voilà, notre temps était quand même relativement organisé aussi autour de ça. Mais ça a permis une richesse incroyable. Et surtout, comme ça a créé une forme de champ morphique, j'ai envie de dire, d'avoir ces 154 personnes qui sont dans cette même vibration, dans cette même recherche, ça a permis à énormément d'énergie d'être là. Nous, de temps en temps, on avait des belles énergies ou quoi, on se reconnectait à ce mycélium et on se sentait boosté. Et à chaque fois que les mycéliums venaient, ils nous disaient combien c'était boostant de venir dans la vallée du temps suspendu pour vraiment s'immerger à fond pendant 4 jours. Donc c'était très nourrissant. Et au niveau de la com, c'était très intéressant parce qu'on n'a pas fait de com du tout pendant un an, de tout ce qu'on a vécu. Mais ça se faisait tout seul, puisqu'en fait, il y avait 154 personnes qui en parlaient autour d'elles à leurs proches. Il y a eu, des centaines, peut-être même des milliers de personnes qui ont été touchées, inspirées, nourries de cette expérience. Donc ça a été très, une manière très organique de communiquer, mais qui, je pense, a vraiment fort bien réussi. Avec ce que tu viens de nous dire, nous comprenons l'intention de ce laboratoire. Maintenant, pour que nos auditrices puissent se représenter quelle forme ça a pu prendre, pourrais-tu planter le décor et nous dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé tout au long de cette expérience ?
Alors oui, c'est bien de planter le décor, je pense, parce que sinon l'imaginaire part dans tous les sens. Donc, un territoire de 6 hectares qui était entouré de 3 forêts. Nos chambres à coucher étaient des tentes
Donc on allait aussi dormir en forêt quand on voulait, juste avec un sursac comme ça, ou juste avec une couverture. Mais on avait chacune une tente, et on a passé toute l'année dans nos tentes, c'était nos chambres à coucher. Mais par ailleurs, on avait une yourte, hein, dans laquelle on pouvait aussi aller au chaud quand il pleuvait, aussi avoir d'autres types de pratiques, etc. Donc on avait un peu de confort quand même. Puis on avait une petite cuisine, donc on avait aussi un petit peu de confort. C'est important de le dire. Puis c'est important de dire aussi qu'il y avait des animaux domestiques. Il y avait des chèvres, il y avait des moutons, il y avait des poules, il y avait un chat. Non, il y avait deux chats, il y avait un chien. Donc on a aussi dialogué avec tout ça. Et nous les tentes étaient dans une zone assez marécageuse. Donc on était aussi en lien avec des couleuvres, avec toutes sortes d'insectes, voilà, avec toute une vie qui vit un peu dans les marais, avec des oiseaux aussi, avec beaucoup d'oiseaux qui étaient là. Et donc voilà, c'est bien de planter le décor, et dire on n'était pas accroché à des arbres en pleine forêt, hein, on campait.
Peut-être tu peux nous dire le nom de cet endroit, vous lui avez donné un nom magnifique.
Oui, on l'avait appelé la vallée du temps suspendu. Et c'est bien que tu poses cette question parce que c'est vraiment ça qui a été finalement la clé de tout. C'était de se défaire du temps, se défaire du temps linéaire dans lequel on est littéralement attrapé en fait et contraint dans le type de vie qu'on mène. Je dis toujours, c'est pas, le système ne tient pas par l'argent, hein, il tient par le temps. Et donc se départir de ça, ça a été... le plus important en fait, parce que quand on veut dialoguer avec des arbres ou même avec une chèvre ou avec un insecte, ils ne vivent pas dans le temps linéaire. Donc ça demande en fait de changer son rythme pour pouvoir rentrer dans un type de dialogue. Donc le gros du travail, ça a été vraiment peu à peu d'oser quitter le temps. Le temps linéaire, en tout cas, le temps poétique, le temps organique, enfin, tous ces temps-là, ils continuent d'exister toujours, et le temps linéaire existe en tant que tel. Mais il a pris tellement de place dans nos vies, et qu'on oublie que dans ce temps-là, il y a plein d'êtres avec lesquels on ne peut pas dialoguer, parce qu'ils ne vivent pas dans ce temps-là. Et donc ça a été, au bout d'un certain temps, je disais, quand les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Je disais, ben écoute, je pense que j'offre ma vie à la vie. Et vraiment, ça m'a pris comme ça, de me dire, mais dans le fond, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire que d'offrir ma vie à la vie? Et pour offrir ma vie à la vie, j'avais besoin de me dévêtir du temps linéaire. Enfin, j'avais besoin d'oser faire ça, quoi. Et c'était pas facile, parce qu'on se disait, on se donne tout rendez-vous à 6 heures pour faire un voyage au tambour. Ouais, mais après, on se revoit à 11h15, parce que voilà, on était prise par ça, en fait. Hein, et c'est un outil en soi qui n'est pas mauvais. Mais quand il prend toute la place, il nous empêche de tomber dans le temps long, profond et organique. Et donc, on a dû vraiment, avec le temps, surtout qu'on vivait en groupe, et donc on devait avoir des rendez-vous. Donc, comment apprendre à sortir de cette hyper-organisation qui nous tient par le temps? Donc ça a été un gros truc. Et puis, ben, chacune avait aussi sa sensibilité. Il y en avait qui avaient vraiment envie de communiquer avec les plantes médecines, d'autres qui avaient envie de communiquer avec les plantes nourricières, d'autres qui avaient envie de communiquer avec les arbres de la forêt, d'autres qui avaient envie d'être avec les chèvres, d'autres qui avaient envie d'être avec les êtres invisibles. Et donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et puis, est-ce que chacune a des outils pour le faire? Et puis, si oui, comment est-ce qu'on partage nos outils? Donc, au bout d'un certain temps, ce qui s'est vécu, c'est que des petits sous-groupes se sont créés par sensibilité commune. Et du coup, parfois c'était deux personnes, parfois trois, parfois quatre, et parfois il y avait des êtres qui vivaient ça seul aussi, parce que c'était leur seul intérêt. On faisait du fromage de chèvre, etc. Et elle, c'était la vie des bactéries, en fait, qui l'intéressait. Et donc, c'était encore autre chose. Donc, et comment est-ce qu'elle allait pouvoir rentrer en dialogue et en compréhension avec... Donc, il y a eu toutes sortes. Et donc, ce qu'on essayait de faire, c'est... régulièrement, on essayait une fois par semaine, mais parfois ça demandait un temps beaucoup plus long, donc c'était parfois toutes les deux ou trois semaines, d'avoir un temps où chacune pouvait partager où elle en était dans son exploration, en fait. Et donc, et voilà, et puis parfois il y en avait qui disaient, moi j'ai vraiment envie de rentrer dans votre groupe, finalement j'ai testé ça, mais ça, j'y arrive pas, mais ça m'intéresse de rentrer dans un autre groupe, ou vice-versa, ou bien tiens, est-ce qu'on n'ouvrirait pas encore une nouvelle piste? Et voilà, donc ça a été vraiment du labo.
C'était fluide.
C'était pas. Alors, c'était fluide, j'ai envie de dire, au niveau de l'exploration en tant que telle. Ce qui était moins fluide, c'était la vie en tribu, en fait. Comprendre comment on allait fonctionner. En tant que groupe, qui est-ce qu'elle allait faire à manger, qui est-ce qu'elle allait... Bon, voilà, déjà, c'était très dénudé, parce qu'on campait et tout ça, mais quand même, est-ce qu'il y en a qui allaient aller faire des courses? Est-ce qu'il y en a... voilà, ouais, mais moi, comment est-ce que je sais si je ferai à manger demain? Parce que si je suis en forêt et que je suis happée par mon expérience, j'ai pas envie de devoir rentrer pour faire à manger. Enfin bon, il y a eu toutes sortes de choses. Donc on est passé de 3 repas à 2 repas à 1 repas.
Par jour.
Voilà, il y a eu toutes sortes de choses. Parfois, il y en avait qui partaient, qui disaient, bon, ben moi, pendant 4 jours, vous comptez pas sur moi. J'ai ce qu'il me faut avec moi, ou bien je jeûne, mais bon, comptez pas sur moi pour les repas. Donc voilà, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont agencées. Et donc, finalement, l'exploration du vivant, dans le sens, ce cercle de femmes, ça a été un énorme apprentissage, parce qu'on n'avait pas de repères du tout, non plus, à ce niveau-là. Hein. Donc, moi, j'avais déjà vécu avec des groupes de femmes, mais sur des cycles de 1 mois, et pas sur des cycles de 1 an.
Et puis dans un contexte un peu différent, parce que quand tu animes une traversée, c'est toi le guide.
Tout à fait.
C'est toi qui sais.
Tout à fait.
Et les autres se conforment, oui. Finalement, te suivent.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tandis qu'ici, il fallait faire avec ce que chacune avait. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'avec le temps, on s'est dit, bon, ben, quand il y a conflit, parce que nécessairement, il y a eu des conflits, quand il y a conflit, on essaye en tout cas de se dire qu'on fait appel à la sagesse des autres que humains. Donc, ok, est-ce qu'on peut dire que quand il y a conflit, ceux qui sont en conflit, en tout cas, pas nécessairement tout le groupe, partent dans la forêt un certain nombre d'heures et attendent d'être infusés avec une forme de sagesse et de paix avant de revenir pour parler?
Et ça a fonctionné?
Et ça, moi, je trouve que c'est super précieux. Je le proposerais à n'importe qui aujourd'hui. Si vous avez un parc ou une forêt tout près de chez vous, si vous êtes en conflit, ne parlez pas tout de suite, quoi. Allez demander conseil à grand-mère forêt, allez vous apaiser dans l'harmonie du vivant avant de vouloir vous confronter à l'autre, quoi. Donc voilà, donc avec le temps, voilà, après il y en avait qui avaient des chouettes outils aussi de médiation, donc ça a permis aussi de permettre des dialogues avec une tierce personne. Voilà, on a expérimenté un tas de trucs, ça n'a pas toujours été facile, mais ce n'était pas le but non plus. Hein, c'était, voilà, puis je pense qu'on avait des projections, donc moi, j'avais des projections sur comment j'allais dialoguer avec les chevreuils et peut-être avec les sangliers ou je sais pas quoi. Et puis finalement, mes premières grandes communications, ça a été avec les moustiques. Voilà, on avait toutes, je pense, des grandes projections sur ce qui allait pouvoir nous arriver. Voilà, ça a été avec le pissenlit pour certaines, enfin, avec des choses toutes simples, en fait. Hein, donc voilà, j'ai envie de dire, ça nous a mené à un tas de choses. Et puis, par exemple, en communication animale, on s'est rendu compte qu'on avait plus de facilité de faire de la communication animale à distance, en fait, que en présence. Et donc ça aussi, ça a été intéressant. Mais en fait, c'est normal. Hein, la fulgurance de la pensée, elle va à vitesse de la lumière. Et du coup, je ne suis pas dans l'obstacle de la matière pour communiquer. Hein, donc voilà, quelque part là, on a approché des formes de télépathie, j'ai envie de dire, que j'aimerais bien de vraiment continuer d'explorer. Et voilà, je crois qu'on a ouvert beaucoup de portes qu'on ne pensait pas qu'on allait ouvrir. Et qu'au final, vraiment, ça a été très, 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 très riche.
Merci. Merci. Toutes ces ouvertures que tu nous proposes.
Alors, Aline, nous arrivons à la fin de ce podcast. Et j'aimerais, pour le clôturer, que tu nous dises rapidement, en quelques mots, que tu nous décrives les fruits cueillis dans ce laboratoire. Et finalement, avec cet inventaire des fruits du laboratoire, c'est un petit peu le plan de la série de podcasts à suivre que nous allons faire ensemble.
C'est vrai que cette expérience, comme elle a été vécue sur 1 an et sur tellement de plans différents, il y a moyen de l'aborder de plein de manières différentes. Donc je pense que ce sera riche d'avoir des podcasts serrés sur différentes thématiques, parfois très, très différentes les unes des autres. Je pense que c'est intéressant, par exemple, de parler de comment c'était possible financièrement.
Et ça l'a été largement, et ça a été une preuve que franchement il ne faut pas être riche ni héritier pour pouvoir vivre ce genre d'expérience. Donc ça, on pourra explorer ensemble. Qu'est-ce que le dialogue avec le vivant demande, hein? Et alors là, on réexplorera ensemble comment on quitte le temps des humains quelque part, en tout cas des humains de notre société capitaliste, pour rentrer dans le temps des autres espèces. Et donc comment on fait la démarche du petit prince, j'ai envie de dire, hein, le petit prince et le renard, comment je vais aller tout doucement offrir du temps pour m'approcher tout doucement, hein? Et donc c'est un lien d'amour et de cœur qui se crée. Donc on pourra aller explorer ça. On peut aussi aller explorer mais comment on fait communauté, comment on fait tribu, et comment on fait tribu tout en se sentant solidaire et soutenu par les autres espèces qui nous entourent. Comment on vit la communauté, comment est-ce qu'on arrive à sortir des rôles qui sont par injonction les rôles des femmes. Donc comment est-ce comment on navigue avec ça. Alors on pourra aussi aller regarder la force des rituels, que ce soit des rituels de pleine lune, des rituels pour la mort d'un animal, pour la mort d'un être cher, pour un être malade, enfin, et quelle est cette force qui est là derrière, comment on la vit, comment on l'invente, voilà, on pourra aller explorer ça. Qu'est-ce qu'on pourrait explorer d'autre? De sentir aussi, avec le temps qu'on est, en tant qu'être humain, finalement, impacté par tellement d'autres choses, en fait. On est impacté par la saison, on est impacté par la lune, on est impacté par le passage de différentes constellations dans le ciel, on est impacté par les éruptions solaires, on est impacté par des choses qui nous dépassent complètement. Alors, bien sûr, il y a l'humanité, mais elle est advenue il y a peu. Et elle est elle-même sans cesse impactée par beaucoup plus grand qu'elle. Et comment est-ce qu'on prend contact avec ça, et comment est-ce qu'on prend ça en compte dans nos vies, en fait. Donc ça, c'est des belles choses à aller regarder aussi. Voilà, pour le moment, c'est ça qui est là. Il y a certainement plein d'autres choses qui vont advenir quand on va réfléchir ensemble avec Mayana, mais en tout cas, il y a toutes ces thématiques-là qu'on va pouvoir regarder de podcast en podcast.
Merci beaucoup, Aline, et je pense qu'on pourra peut-être proposer aussi un épisode sur le temps long. Comment sortir de Chronos a été structurant dans cette expérience, et encore mille autres sujets.
Vous, auditeurs et auditrices qui nous écoutez, merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le partager largement autour de vous et rejoignez-nous sur la chaîne Dans la toile du vivant pour de prochains épisodes. À bientôt.
Na na ni na.